Merci Olivier. Donc nous entamons la première session qui va traiter de la vérité religieuse et de la vérité scientifique dans son rapport au droit. Ça nous renvoie évidemment à certains fondements historiques de cette relation tumultueuse entre droit, vérité et politique. Et je cède la parole pour entamer donc cette approche interdisciplinaire, comme Olivier Corten l'a souligné directement, à le professeur Saviero Ricci de l'Université de la Tuscia de Viterbo, qui va nous parler du procès de Giordano Bruno sous l'Inquisition. Monsieur le professeur Ricci est donc professeur de philosophie et d'histoire spécialisé dans l'époque de la Renaissance, de la Réforme et de la Contre-Réforme. Merci.
Bonjour mesdames et messieurs. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureux d'être ici et je remercie les comités qui ont organisé cette colloque pour avoir pensé à Giordano Bruno et à inviter un spécialiste de Giordano Bruno à parler du procès. Alors, je viens de la terre de la pizza, mais je pense que malheureusement je ne peux pas parler de pizza. Giordano Bruno est né à Nola, que c'est une ville très proche de Naples où la pizza a été inventée, mais à l'époque de Giordano Bruno il n'y avait pas de pizza. Alors je trouve que c'est vraiment très bien d'avoir pensé à commencer cette réflexion plutôt qu'en partant de Giordano Bruno, en partant du Saint-Office. Parce que le Saint-Office c'est le tribunal qui a jugé Giordano Bruno. Dans les titres de ma communication, c'est indiqué le nom d'Inquisition. Le Saint-Office, c'est une forme particulière d'Inquisition qui vient à être établie en 1542 par le pape Paul III Farnèse avec la boule Licet ab initio. L'Inquisition existait depuis longtemps, du XIIIe siècle, mais évidemment, dans les moments de la lutte contre la réforme, contre l'hérésie luthérienne et calviniste, le pape a pensé d'ériger un nouveau tribunal avec des pouvoirs spéciaux. Le tribunal, c'est un tribunal, et ça c'est la raison pour laquelle je pense que c'est très bien de commencer une réflexion sur la légifération, sur la vérité, la judiciarisation de l'action politique avec une réflexion sur le Saint-Office, parce que le Saint-Office est un tribunal plutôt particulier. C'est normalement, comme tribunal, c'est un organisme qui doit vérifier et qui doit corriger l'erreur. C'est un tribunal de correction de l'erreur et c'est un tribunal qui s'occupe des hérétiques plutôt que des doctrines hérétiques. En principe, c'est un tribunal qui doit vérifier si quelqu'un est un hérétique ou pas. Des fois, le tribunal est appelé à se prononcer sur des vérités théologiques. Des fois, le Saint-Office fonctionne comme orgue de définition théologique. C'est un peu rare, mais ça passe. Par exemple, pour la théorie copernicienne, si on veut rester dans le domaine de l'histoire de la science et de la philosophie, en 1616, les consultori, c'est-à-dire les conseillers théologiques du tribunal, sont demandés de dire si la théorie héliocentrique c'est une théorie hérétique ou si elle est en accord avec la Sainte Écriture. Et la réponse du comité, c'est que l'héliocentrisme, c'est une hérésie. Bien, il faut ajouter à ça qu'après cette déclaration d'hérésie de la part des conseillers du tribunal, le pape, qui était le président du tribunal, n'a pas décidé de donner une formulation solennelle et de dire à tout le monde que le copernicanisme, l'héliocentrisme, c'était une hérésie. On a interdit des livres, on a interdit les livres de Copernic avec la formule Donec Repurgetur, on a interdit des autres livres qui traitaient l'hypothèse héliocentrique, on a peut-être utilisé cette chose à l'époque du procès à Galilée en 1633, mais manque une déclaration solennelle de l'Église, c'est-à-dire du pape, qui dit officiellement, dans une façon solennelle, que l'héliocentrisme c'est hérétique. Je dis ça parce que le pouvoir de définition théologique du pape en tant que président du tribunal de Saint-Office, c'est un pouvoir qui existe, mais n'est pas un pouvoir vraiment solitaire. Dans le sens que le pape peut dire si quelque chose est une vérité ou est plutôt une hérésie, etc. C'est la même fonction à laquelle il fait référence pendant les procès à Giordano Bruno. Dans l'exposé que j'ai donné aux discutants, j'ai souligné qu'à un certain moment du procès, au mois de janvier de 1699, le cardinal Bellarmine, qui était dans le tribunal, soumet à Giordano Bruno une liste de 8 propositions, de 8 thèses, qui sont dérivées du procès et des censures de ses livres. Et il demande d'abjurer sur cette liste. Et Bruno se refuse d'abjurer sur cette liste parce qu'il soutient que les thèses qui sont définies comme hérétiques dans cette liste par le cardinal Bellarmine ne sont pas des thèses hérétiques et il est très disponible à les abjurer, mais du moment que le pape les définit ex nunc, c'est-à-dire dorénavant, hérétiques. Alors le pape a évidemment un pouvoir de définition d'hérésie. Et naturellement, s'il peut définir que quelque chose est une hérésie ou pas, il a un pouvoir de définition des vérités catholiques. Cet pouvoir de définition théologique et des définitions catholiques, qui ne sont pas la même chose que les vérités des foi, parce que les vérités des foi dépendent de la Sainte Écriture, mais sont plutôt des autres vérités, vérités catholiques, vérités théologiques, c'est un pouvoir duquel les papes disposent, mais duquel les papes n'abuse pas ou cherche de n'abuser pas ou cherche de recourir à ses pouvoirs avec beaucoup de prudence. Par exemple, entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe, il y a la grande question, la grande lutte théologique entre les écoles théologiques jésuites et les écoles théologiques dominicaines sur la question de la grâce. Et soit l'école jésuite, soit l'école dominicaine, et chaque école accuse l'autre d'être hérétique, soutiennent une théorie de la grâce qui est tout à fait différente de l'autre. Et le pape Clément VIII, que c'est le même pape du procès contre Giordano Bruno, est très pressé, soit du parti jésuite, soit du parti dominicain, de se prononcer en tant que pape, de dire quelle école théologique a raison sur cette question très compliquée de la grâce. Et alors le cardinal Bellarmine, le même du procès à Giordano Bruno, conseille au pape de ne se prononcer pas, parce qu'il dit « c'est plutôt des conciles des conciles généraux de l'Église, de donner des définitions de la vérité. » Alors vous voyez que, et en fait, le pape ne décide pas la question. La question n'est pas décidée. Et un successeur de Clément VIII, Paul V, arrive au point d'interdire toute discussion entre théologiens jésuites et théologiens dominicains, plutôt que de donner une solution à la question. Alors vous voyez comme l'exercice du pouvoir de définition théologique est un pouvoir très délicat évidemment dans l'Église et est un pouvoir aussi qu'on laisse plus facilement de gérer au concile, aux réunions générales de l'Église. Et n'est pas par hasard que c'est plutôt au niveau des conciles généraux de l'Église comme les conciles de Vienne et les conciles les cinquièmes conciles du Latran et les conciles de Trente, qui dérivent la plupart des décisions solennelles, formelles, explicites de l'Église au sujet de la relation entre philosophie et hérésie, c'est-à-dire au sujet des philosophies qui peuvent démontrer des caractères hérétiques. Je parle de la déclaration Fidei Catholici Fundamento, c'est le décretum du Concile de Vienne de 1312, avec lequel le pape Clément Kant dit que la théorie thomiste de l'anima forma corporis est la seule théorie catholique de l'âme et qui devient hérétique qui prononce quelques thèses contre cette définition thomiste de l'âme. C'est la déclaration Apostolici Regiminis du cinquième concile Latran de 1513, avec laquelle le pape Léon X prononce une autre sentence solennelle de l'Église. Il reprend la déclaration de Vienne sur l'immortalité de l'âme. Il dénonce comme hérétique toute définition du monde comme éternelle. Et il dit que sont hérétiques les professeurs de philosophie qui, pendant l'exposition à l'université, dans les cours de la physique d'Aristote ou des autres ouvrages d'Aristote, toutes les fois qu'il rencontre dans les textes d'Aristote des thèses qui sont les contraires de ce que l'Église catholique maintient, soutient, il a le devoir de dénoncer aux étudiants et de réfuter devant les étudiants les contenus de la physique ou de la métaphysique ou des autres ouvrages d'Aristote qui sont contre la foi catholique. S'il ne fait pas ça, il est soupçonnable d'hérésie et on peut le persécuter comme hérétique. Mais vous, et il y a, troisième, les Decretum de Canonicis Scripturis du Concile de Trente, 1546, dans lequel on prend la décision d'interdire à tout catholique de donner des interprétations personnelles de la Sainte Écriture. Et ça a une conséquence sur la philosophie aussi, parce qu'à l'époque, les philosophes utilisaient beaucoup la Sainte Écriture pour soutenir des thèses, pour conforter des thèses, etc. Alors, vous voyez qu'il n'y a que trois déclarations solennelles de l'Église qui ont affaire avec la philosophie. Alors, l'inquisiteur, les membres du Saint-Office, mais aussi les censeurs, a évidemment quelques difficultés à gérer des procès qui sont des procès contre des idées philosophiques, qui sont des procès contre des idées philosophiques soutenues par des philosophes. Parce qu'il y a quand même, des catalogues ou des répertoires d'erreurs philosophiques. Par exemple, il y a une liste d'erreurs de philosophes qui est faite au Moyen-Âge par Gilles de Rome, l'élève de saint Thomas d'Aquin, s'intitule « Errores philosophorum ». Et cette liste d'erreurs de Platon, de Pythagore, des pythagoriciens, d'Aristote, des philosophes arabes, des philosophes juifs, etc., c'est une grande liste qui est reçue par la tradition inquisitorielle, c'est reproduite par Heimerich, qui est un des fondateurs de la tradition des manuels des inquisiteurs, s'est repris dans la tradition des manuels d'inquisition à l'époque de la réforme et de la contre-réforme, mais c'est une liste d'erreurs philosophiques qui n'est pas la force d'une déclaration solennelle de l'Église. Et en même temps, il y a une autre liste d'erreurs philosophiques qui est faite par l'archevêque de Paris, Étienne Tempier, en 1277, pendant la crise averroïste de l'université de la Sorbonne. Et dans cette liste, il y a plusieurs thèses philosophiques qui sont condamnées, mais c'est une condamnation faite par un évêque. C'est l'évêque de Paris qui fait ça, et le fait pour la diocèse de Paris et pour l'université de Paris. Alors tout ça a évidemment une influence sur tout, sur quelconque procès de philosophie, même sur le procès de Jordan Bruno. Parce que, évidemment, il y a des thèses philosophiques qui on peut reconnaître très aisément comme thèses philosophiques hérétiques. Par exemple, toute thèse philosophique qui soit contre la thèse thomiste dell'anima unica forma corporis. Mais il y a des autres thèses qui n'est pas facile de reconnaître en tant que thèse hérétique. Et alors, il y a évidemment, aussi dans les procès de Giordano Bruno, la nécessité de la part de l'Église, à travers les papes, de dire que cette thèse est une thèse hérétique. Et alors, à ce moment-là, les papes fonctionnent, les papes travaillent comme quelqu'un qui donne une nouvelle vérité et qui dénonce une hérésie nouvelle par rapport à la vérité. Il dit, contre Bruno, que certaines thèses étaient déjà des thèses hérétiques. Le point de vue de Bruno, c'est à l'opposé que certaines thèses sont des thèses qui n'étaient pas auparavant hérétiques, sur lesquelles l'Église n'avait jamais pris une position. Par exemple, la question cosmologique, la question de l'infini cosmologique. Il n'y a qu'une phrase de saint Augustin sur ça, dans les De Hérésibus, Augustin dit que dire plures mundi, c'est une hérésie. Mais en fait, il n'y avait pas une tradition de déclaration solennelle et explicite de l'Église sur ces points-là. Et le pape dit que cette thèse, c'est une thèse hérétique depuis longtemps. Alors, le président du tribunal, c'est en même temps les juges, et c'est en même temps celui qui va définir une vérité et une hérésie par rapport à cette vérité. Je pense que le quart d'heure s'est terminé. C'est ça ? C'est vrai ? Bien, merci.
Merci beaucoup pour cet ami.